France Musique. Les grands entretiens, Judith Chen.
Je m'appelle Jeannine Rose. Je suis née en 1943 à Aurillac dans le Cantal et je suis entrepreneur de spectacle.
Bonjour Jeannine Rose.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous accorder ce temps. Je suis très heureuse de vous recevoir pour des grands entretiens, car si vous n'êtes pas musicienne, votre vie assurément se raconte en musique. Une vie de saltimbanque, une vie de passion avec l'amour du spectacle comme étendard. Mélange de force et de fragilité, j'oserais dire que vous êtes une femme résolument moderne, inspirante et audacieuse. Œil marginal, esprit pionnier, vous semblez avoir fait tous les métiers, maréchal des logis, comédien, braconnier, empereur ou pianiste, ça peut-être pas, mais enfin, pas loin. Toutes ces vies, nous allons les parcourir, pas à pas, nous avons le temps, mais peut-être tout d'abord, en ces temps si troublés, comment allez-vous ?
Je vais moins bien que pendant le premier confinement, comme je crois beaucoup de gens. Le premier confinement a été pour moi quelque chose d'assez magique parce que d'abord je suis allée travailler tous les jours. J'habite Saint-Germain-des-Prés et je suis partie à pied tous les jours sur les Champs-Élysées, dans un Paris désert avec le ciel bleu, des oiseaux sur ma terrasse, toute seule dans un immeuble de 7 étages à travailler pour 21, 22, 22, 23. Enfin, c'était une espèce de bulle où j'ai absolument pas souffert de solitude. On a repris un semblant de vie pour replonger depuis mi-octobre pour moi sans musique, sans concert, sans spectacle, sans rien. Je continue à aller à mon travail, je déteste le télétravail. Et là, je me sens pas très bien. Et c'est un monde à l'envers, c'est-à-dire que j'ai terminé 21-22, je suis à la moitié de 22-23 et je sais pas si dimanche j'ai un concert. Et c'est très 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 inconfortable pour moi parce que ma façon de vivre, c'est les pieds sur terre, très très solidement implantés et la tête dans les nuages. Mais je peux pas avoir et les pieds et la tête dans les nuages parce que là je suis déstabilisée. La scène me manque. Je peux pas dire que la musique me manque, mais une salle de spectacle avec le public, avec un rituel, c'est inscrit quelque part dans mon ADN. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ce parcours. Eh ben, je suis en manque, quoi. Je suis en manque. Je sens les gens très malheureux autour de moi. Ça m'affecte. Et quand j'ai un contact avec des artistes en ce moment, c'est pour leur annoncer que le concert est annulé, quoi. C'est très déplaisant.
En effet, comme vous le dites, c'est à la fois, évidemment, vous êtes entrepreneur de spectacle, donc il y a une réalité financière qui est évidemment sans doute compliquée, et il y a aussi le cœur, c'est-à-dire une vie, quand vous dites j'ai besoin de ce parcours, j'ai besoin de ces trajets, d'arriver dans une salle de spectacle, de cette émotion, de cette fragilité que sont les coulisses, cet espace comme ça.
D'entendre ce murmure avant que ça commence, c'est... peu importe la discipline, je suis pas fixée sur la musique. Et puis pas de cinéma, c'est-à-dire pour moi qui vais 2-3 fois par semaine au cinéma, je déteste le cinéma et la télévision, veut dire... Parce que j'ai besoin du public aussi, j'ai besoin de la salle à chaque fois. Et ce que j'ai découvert, c'est que quand vous êtes coupé de tout ça, peut-être contrairement à beaucoup de gens, eh ben je ne peux plus écouter de musique, je ne peux pas regarder de film à la télévision. Ça me coupe littéralement de tout ce qui est presque mon quotidien. Me reste juste la solitude de la lecture.
Alors vous dites, Jeannine Rose, que c'est dans votre ADN que d'aimer le spectacle vivant, que d'en avoir besoin. On va revenir évidemment à cet ADN, c'est-à-dire d'où vous venez, qui sont vos parents, et peut-être même vos grands-parents. Vous êtes née dans le Cantal, vous êtes née pendant l'occupation.
Oui.
Vous allez arriver à Paris après.
Mes parents étaient cachés sous de faux noms. Mon père fait partie de ceux qui sont sortis de Drancy. Donc ma mère l'a remis sur pied. Et puis dès qu'il a pu marcher, ils sont partis dans le Massif central, où chacun a travaillé. Mon père était maroquinier sellier. Donc là, il est devenu gantier, puisqu'il était à Millau d'abord. Maman, je ne sais pas ce qu'elle faisait. Je sais qu'elle travaillait, qu'ils avaient deux faux noms différents. Et puis pour ma naissance, ils sont partis à Aurillac, et moi je ne suis arrivée à Paris qu'en 45, donc 2 ans après. Donc je suis née dans un contexte relativement difficile pour eux. Et je crois que la force qu'ils ont mis à vivre et à se défendre et à survivre plus exactement, moi je crois beaucoup au fait qu'ils m'en ont passé pas mal. Et que ce côté, quoi qu'il arrive, de survie, moi, dans les pires situations, je suis presque comme un poisson dans l'eau, parce qu'ils ont dû m'habituer à ça, et c'est pratiquement naturel. D'où ce côté toujours un peu marginal, lié à la possibilité de s'en aller, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je veux dire, si je regarde mon parcours, à part 1 ou 2 ans... c'est toujours, y compris de ma propre maison de production, la possibilité de m'en aller du jour au lendemain. Et ça, je pense que c'était ce qu'ils m'ont passé.
Oui.
Je ne sais pas très bien ce que faisaient mes grands-parents. Mes grands-parents sont nés en Pologne. Des deux côtés, dans des petits villages. Mais mon père et ma mère sont nés à Varsovie. Maman est arrivée en France dans les années 22. Elle avait 3-4 ans, je crois. Mon père devait avoir 5-6 ans. Et puis bon, comme tous les juifs ashkénazes, c'était le quartier du Marais. Et donc, d'un côté, il y avait la famille maternelle. Et la famille paternelle, pratiquement personne. Parce qu'une grande partie, soit en Israël, soit déportée en Pologne. Et je ne sais absolument pas ce que faisaient mes grands-parents. Je pense que mon grand-père, du côté paternel, était maroquinier, comme ce que mon père est devenu, mais je ne sais pas du tout du côté maternel. Et j'aurais pu poser les questions, comme beaucoup de gens de ma génération, mais c'est de tels comportements qu'on ne posait pas de questions. Et quand j'ai été capable de pouvoir en poser, il n'était plus là, quoi.
Vous êtes l'aîné ?
Oui, j'ai un frère aussi.
Un frère cadet, donc.
Oui, un frère cadet. Mais lui, qui est né rue Barbette, dans le 3e, veut dire que c'est tout à fait autre chose, quoi. On a beaucoup de choses en commun, mais déjà, c'est pas la même résistance. Enfance un peu étrange. Quand j'ai eu 4-5 ans, on m'a mis en nourrice avec mon petit frère parce que mon père faisait construire une maison à 20 km de Paris, à Pontault-Combo à l'époque. C'était les champs, les vaches. Maintenant, il y a même un musée de la photo et il y a le RER. Et donc, j'allais à l'école du village, je faisais plusieurs kilomètres par jour. J'avais une nourriture de paysanne. Et puis, mon père est décédé, j'avais 7 ans et demi, et on nous a rapatriés à Paris, mon frère et moi et maman, et nous sommes allés vivre chez les grands-parents maternels. où là, ça a été un choc terrible. Parce que dans le fond, moi, je ne me souvenais pas de Paris quand j'avais 3 ans. Donc ces voitures, le bruit, une nourriture judéo-polonaise, je ne pouvais pas manger, quoi. C'était pas possible, moi je n'étais pas habituée à ça. Des grands-parents qui parlaient surtout yiddish. Et une communication un peu complexe, une mère qui a dû aller travailler chez les autres et donc qui n'était jamais là. Et surtout, la grand-mère avait décidé que, compte tenu de ce qui venait de se passer, la religion s'était terminée. Donc, mon grand-père n'avait le droit d'aller à la synagogue que le jour de Yom Kippour. Donc, nous n'avons reçu aucune éducation religieuse, ce qui veut dire aussi aucune éducation pour nous dire d'où on vient, pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça. C'est des années après que j'ai dû rechercher, quoi, parce que on se pose des questions. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je recommence à faire ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient d'où? Puis si on vous a pas raconté l'histoire, il faut chercher.
Retour à Paris, Jeannine, vous avez quoi? C'est 8 ans?
7 ans et demi. L'étude est très très importante pour moi parce que c'est une façon de m'évader. Et puis il y a les livres, quoi. C'est tout de suite, il y a les livres. Il y a la bibliothèque de la mairie du 3e qui est à côté. Le cadeau annuel de Noël, c'est un livre. Il y a le livre. Mais je suis la seule de la famille à lire. Et à côté de ça, il y a la grand-mère qui ne parle pas bien français, qui fait une cuisine effrayante. Épouvantable. Déjà, quand j'arrive dans l'immeuble, je commence déjà à pleurer. Mais qui a une passion, la variété française.
Alors qu'elle ne parle que peu la langue.
Elle ne comprend pas tout. Mais c'est passionnel chez elle. C'est le lancement de Europe 1, qui est la radio qu'il faut écouter, avec tous les feuilletons, etc. Elle a ses chanteurs, dont Luis Mariano. Un frère qui a 3 ans et demi, 4 ans et qui chante déjà Luis Mariano. Donc, nous voilà embarqués déjà dans tous les musicals du quartier. Et il y en a beaucoup.
C'est les grands boulevards.
Sur les grands boulevards, il y a le Grand Alhambra de 3000 places. Il y a la BC, il y a l'Ambigu. C'est le quartier de la chanson française de l'époque. Et notre grand-mère nous traîne partout. Et mon frère, à 4 ans, chante sur scène. Voilà, et ça... Elle décide dans sa tête qu'il deviendra chanteur. Moi, on me fout la paix, parce que de toute façon, je vais devoir me marier, puis on n'en parlera plus, quoi. Voilà, c'est... Mais il y a cette passion. Maman a la passion de la danse, mais je dirais danse de salon, parce que, voilà. Maman était une femme très, très, très belle, très séductrice, tout en étant quelqu'un de quand même, par ailleurs, assez réservé, mais aimant séduire et... Pour moi, ça allait pas du tout, quoi. C'est pour ça que je n'aime pas la séduction. J'ai beaucoup de mal avec les gens qui sont des séducteurs. Voilà, donc on est tous rue de Saint-Onge, un peu serrés les uns contre les autres, et on écoute Luis Mariano. Et je découvre Zizi Jeanmaire. À 8 ans, et là, c'est un choc. Un choc parce que c'est de la danse, et je décide que je serai danseuse. Et c'est raté. Parce que la grand-mère n'a pas voulu. Et qu'à l'époque, le seul débouché, c'était l'Opéra de Paris. Et que la réputation était pas très bonne. Donc, c'était pas possible. Quoi.
C'était pas recommandable.
Non, c'était pas possible. Mon frère avait le droit d'aller chanter, mais moi, je pouvais pas danser.
Ba-da-da-ba-ba-da-da-ba-ba-ba-da-da-ba-ba-da-da-ba-ba-da-da-ba-ba-da-da-ba-ba-da-da-ba-ba-da-da-ba-ba-da-da-ba-ba-da-da-ba-ba-da-da-ba-ba-da-da-ba-ba-da-da-ba-ba-da-da-ba-ba-da-da-ba-ba-da-da-ba-ba-da-da-ba-ba-da-da-ba-ba-da-da-ba-ba-da-da-ba-ba-da-da-ba-ba-da-da-ba-ba-da-da-ba-ba-da-da-ba-ba-da-da-ba-ba-da-da-ba-ba-da-da-ba-ba-da-da-ba-ba-da-da-ba-ba-da-da-ba-ba-da-da-ba-ba-da-da-ba-ba-da-da-ba-ba-da-da-ba-ba-da-da-ba-ba-da-da-ba-ba-da-da-ba-ba-da qu'aux plumes, plumes de oiseaux, de animaux. Mon truc en plumes, c'est très malin, rien dans les mains, tout dans le cou de rein.
France Musique, les grands entretiens de Jeanine Rose.
Cette grand-mère qui a l'air quand même pas très commode.
C'est le chef,
mais en même temps, il y a quand même quelque chose un peu jouisseur chez elle, d'aimer le spectacle, Luis Mariano, c'est aussi l'appétit
et
du plaisir.
Et beaucoup d'humour, énormément d'humour, un humour à couper au couteau, mais c'est elle qui tient la cellule familiale, vraiment, c'est elle qui tient tout. Et évidemment, moi, c'est contre elle que je commence à me battre. Parce que je ne peux pas me battre contre ma mère qui n'est pas là, ça c'est sûr, puis j'en ai pas envie. Tandis qu'avec ma grand-mère, ça va dur, quoi. Avec les années, j'ai découvert que j'avais quand même quelques points de ressemblance. J'ai eu du mal à l'accepter, mais comme je ne sais pas comment était l'autre grand-mère, donc celle-là, je l'ai quand même eue en face de moi. Et oui, je suis même allée jusqu'à demander à aller en pension pour ne plus la voir, hein. Elle était d'une exigence absolument folle. J'avais pas le droit de faire mon lit, j'avais pas le droit de mettre la table, parce que j'aurais mal fait. Et puis à côté de ça, il y avait le grand-père, quoi.
Alors lui, il était comment?
Ah ben lui, faut l'imaginer, physiquement, c'est Fred Astaire. Il est pas sensible du tout à la chanson française, ni rien du tout, mais il comprend très vite que j'ai besoin de communiquer. Donc il va apprendre très vite à apprendre à lire et écrire le français pour me faire réciter mes leçons. C'est lui qui vient me chercher à l'école pour me donner mon 4 heures. C'est avec lui que je fais les grands boulevards, parce que c'est la grande sortie. À l'époque, il y avait beaucoup de choses sur les grands boulevards, que je mange des marrons chauds. C'est le seul vraiment échange de tendresse que j'ai avec un frère de ma mère, mon oncle, avec lequel j'ai exactement le même type de rapport. C'est-à-dire que j'ai un très bon rapport avec les hommes, complexe avec les femmes.
Et ces années que vous passez à Pontoncombo, est-ce que c'est un peu des années d'Eldorado? Votre père est là, c'est la campagne, c'est une forme de liberté. Est-ce que ça reste une forme comme ça de...
Non, c'est très...
De parenthèse un peu.
C'est une première partie chez les paysans et une deuxième partie, quelques mois, avec une dame qui nous garde dans notre maison. Et pour moi, c'est le paradis parce qu'on a construit cette maison. J'ai une chambre pour jouer avec mes poupées, j'ai une chambre pour dormir, j'ai ma bicyclette, j'ai mon chien, j'ai mon chat, j'ai un jardin, je jardine. Tous les jours, je pars dans la campagne avec mon sac, je fais 4-5 kilomètres pour aller à l'école, je reviens, je mange de la soupe, je mange du pain avec du fromage. C'est une très 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 grande liberté, très très grande liberté qui d'un seul coup... bascule dans l'obscurité la plus totale quand j'arrive à Paris, rue de Saint-Onge, dans un appartement au premier étage. Et là, ça va pas, quoi. Je suis mal. Je suis très, très, très mal. D'autant plus qu'on me dit pas que mon père est mort. On me dit qu'il est parti en voyage. À cette époque, on disait pas des choses comme ça. Mais moi, je savais, hein. Évidemment, je savais. Et je ne me souviens absolument pas de ma mère avant. Du tout. Malgré des années de travail personnel, je ne me souviens pas d'elle. Je me souviens parfaitement de mon père, de discussions avec lui. C'était un peintre du dimanche, un peintre amateur. Je revois les livres, musique non, parce que là...
Mais il y avait des livres.
Il y avait les livres pour apprendre à faire du béton, du plâtre, de l'architecture. Enfin, il y avait déjà toute cette littérature-là. Beaucoup de Victor Hugo, de Dumas, de Voltaire, j'ai vu ça après parce que les livres sont restés. Et puis, un grand amateur de photographie. Et il avait monté son labo pour développer. Enfin, ils avaient un tout petit appartement. C'est bien pour ça qu'on ne restait pas avec eux, d'ailleurs. Et il colorait ses photos en noir et blanc. Là, il y avait une grande, grande dimension artistique. Et même un maroquinier sellier, c'est quelqu'un qui coud avec les mains, qui dessine les modèles. Donc, il y avait une dimension artistique très, très, très forte chez lui. Très mauvais caractère, paraît-il, mais très fiable. Donc, on lui pardonnait le mauvais caractère dont j'ai, paraît-il, hérité. Le leitmotiv de ma mère, c'est que je ressemble beaucoup à mon père. Et elle oubliera simplement de me dire une chose essentielle que je découvrirai quand j'ai 55 ans, je crois. À savoir que mon père était fou d'opéra et de musique. Et je ne savais pas. Et c'est à l'âge de 55 ans à peu près que je me suis sentie à ma place dans ce métier. Grâce à ça. J'ai passé des années à essayer de comprendre comment c'était possible que je puisse arriver à travailler et à vivre avec tous ces musiciens, tous ces gens de métier qui ont fait des études, qui connaissent la musique, sans moi connaître une note et n'ayant aucune envie d'apprendre quoi que ce soit. Aucune. Je suis pourtant curieuse, hein. Oui. Mais je pensais que c'était pas nécessaire du tout. Et c'est là où, à 55 ans, où j'ai compris.
C'est sur ce Dove Sono extrait des Noces de Figaro de Mozart dans la version de Margaret Price dirigée par Riccardo Muti à Vienne que se referme le premier épisode des Grands Entretiens avec Jeanine Rose. Réalisation Christine Amado, prise de son Julien Calvas, mixage Jean-Benoît Tétu, attaché de production Flora Sternadel. Demain, à la même heure, deuxième épisode de ce portrait. Les Grands Entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.